Parole de paix sur RCN.
Bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici Parole de paix, une émission qui permet de discuter de sur les sujets d'actualité, sur les sujets du moment, à une pause humaniste qui nous permet, notre collectif échange autour de des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne tous. Et toutes. Dans cette émission, nous allons avoir un dossier sur un conflit qui est assez peu dans les médias. C'est le peuple sahraoui qui cherche à être indépendant depuis plus de 40 ans, bien plus que ça, Brigitte.
Plus 50 ans.
Brigitte revient d'un voyage dans le Sahara occidental ou à proximité dans les camps sahraouis qui sont hébergés en Algérie. On vous expliquera ça, tout ça pendant le dossier. Mais je vous aujourd'hui, j'ai oublié de présenter tout le monde. Aujourd'hui, nous avons Catherine avec nous de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous.
Et puis Brigitte. Bonjour Brigitte. Alors tu es là pour l'association de solidarité.
Non, avec le peuple sahraoui.
ASPS. Oui, ASPS.
Oui. Bonjour.
Bonjour Brigitte. Et puis donc moi, Stéphane Tabourin, pour le mouvement de l'objection de conscience. Comme à l'accoutumée, nous commençons toujours notre émission par des brèves, des informations, et nous en avons beaucoup pour le mois de mars 2025. Alors, on va commencer par plusieurs manifestations qui vont avoir lieu sur le Nancy ou le Grand Nancy. Brigitte, le 18 mars, nous avons la venue de Patrice Bouvray à Nancy. Alors,
tout à fait. Patrice Bouvray, qui est le directeur de l'Observatoire des armements et de la revue Damoclès, qui a publié un livre qui s'appelle « La coopération militaire et sécuritaire France-Israël », vient à Nancy le 18 mars, donc mardi 18 mars, à 20h, à la Maison du Peuple UD-CGT de rue Drouin, à l'invitation de l'AFPS, pour nous parler du commerce des armes et des guerres au Proche et au Moyen-Orient. Patrice Bouvray fait un tour de France, je crois qu'il est cette semaine en Bretagne, il est ensuite en Moselle, après
le passage à Nancy. D'accord.
Oui, tout à fait.
Donc c'est le 18 mars, tu as dit 20h, c'est ça ?
20h.
De rue Drouin, pour discuter avec un spécialiste de l'Observatoire.
On connaît bien d'ailleurs, on l'a invité, tu l'as déjà invité.
Il a déjà fait des émissions de Parole de paix avec nous. Donc Patrice Bouvray, le 18 mars, de rue Drouin, 20h, sur la question des armes.
Des armes et le Proche-Orient.
Voilà. Le 22 mars, Catherine, le 22 mars, c'est un moment important à Nancy et dans toute la France.
Oui, c'est la journée mondiale internationale de lutte contre le racisme et les discriminations. Et en France, elle est déclinée suite à une rencontre de décembre, au moment où la circulaire Retailleau allait sortir, née ici ou venue d'ailleurs, unie contre le racisme et les mêmes droits pour tous.
D'accord, donc une grande journée pour tous les Nancéens, toutes les Nancéennes, et comme dans le reste de la France, pour se lever, pour marcher un peu contre le racisme. L'ambiance en France est assez délétère, le racisme se déploie de plus en plus. Il est donc important de dire non.
Dire non, voilà. Et donc la journée commencera en début d'après-midi, je crois que c'est à 15h, place Maginot, avec une déambulation dans la ville et une arrivée, je crois, la Stanislas.
Oui.
Avec des intermèdes musicaux, danser, enfin un petit peu tout.
Ouais, les nombreux organisateurs, justement.
Alors, c'est à l'initiative d'énormément d'associations nancéennes. Les leaders, ceux qui coordonnent, ce sont la LDH et Réseau Éducation Sans Frontières, donc RESF. Et puis, bien sûr, il y a Amnesty International, le droit au logement, Equinox qui traite des problèmes de LGBT.
Il y a même le MOC, je crois.
Il y a le MOC, oui.
Et le Syndicat des avocats de France.
Il y a le SAF, il y a... Voilà. Voilà, et un soutien de nombreux partis politiques.
Oui, donc c'est important, auditeur, auditrice, c'est un samedi à 15h, place Maginot, venez marcher pour dire que cette ambiance raciste qui suinte de tous les côtés, on n'en veut plus, c'est pas comme, on veut pas vivre voilà. Dans la peur et dans la haine du prochain, on est une société humaine, on doit être ensemble, et tu commençais à le dire, oui, et on veut faire une manifestation assez joyeuse avec de la musique, avec des
prises de parole,
des danses,
la danse, voilà, de la poésie, etc. Et c'est vrai que c'est très très important parce qu'il y a un racisme décomplexé actuellement en France qui suinte partout. Que ce soit dans les administrations, que ce soit dans la rue, que ce soit vraiment à tous les niveaux. Et c'est extrêmement inquiétant. Et tout ça, c'est lié à un discours des entre guillemets, responsables politiques, parce que je pense qu'ils sont plutôt irresponsables en se comportant comme ça. Mais au plus haut niveau de l'État, il y a vraiment une parole qui s'est totalement libérée, qui fait que, dans la société, il y a de plus en plus de personnes qui se permettent des réflexions, des actions xénophobes et racistes. Et ça n'est vraiment pas possible.
Oui.
Jusqu'à maintenant, oui, la parole n'était pas décomplexée et il y avait des actes racistes. Mais là, ça se développe à grande vitesse.
Oui, c'est inacceptable.
C'est inacceptable.
Il faut le dire. Et il y a aussi derrière des souhaits que les gens se divisent, qu'on voit notre voisin comme un ennemi. Comme ça, on regarde pas ce qui se passe par ailleurs sur d'autres choses bien plus. Il y a des vrais problèmes et c'est mon problème, ce n'est pas mon voisin. Donc c'est le 22 mars, c'est un samedi, 15h, place Maginot à 15h. Il faut y être tous. On continue, Brigitte. Le 25 mars, il y a une conférence, d'ailleurs en lien avec notre émission d'aujourd'hui.
Oui, qui promet d'être passionnante. Donc le mardi 25 mars, ce sera à 19h30, à la Fac de Lettres, l'amphi A42. Donc c'est un des grands amphis qui sont au rez-de-chaussée. On a la chance d'avoir Manuel Devers, qui est un grand juriste en droit international, qui est le fils de feu Gilles Devers, que nous avions d'ailleurs invité dans des émissions ici à Parole de Paix. Donc Manuel Devers va nous parler du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un grand principe de droit international qui va être décliné sur plusieurs situations, sur la Palestine, sur le Sahara occidental et sur la Nouvelle-Calédonie. Il nous parlera un petit peu également de Mayotte. Mais on va d'abord se concentrer sur ces trois situations qui sont extrêmement importantes, puisque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un droit que l'on appelle du jus cogens, c'est-à-dire que c'est une norme impérative en droit international. Et malheureusement, ce principe est régulièrement bafoué. Et donc, c'est pour parler de situations coloniales non résolues que nous invitons Manuel Devers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous faire une approche aussi extrêmement concrète à travers les dossiers qu'il a eu à traiter au cabinet. Dans son cabinet d'avocat, à travers les plaintes déposées à la CPI pour les Palestiniens et à travers la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne pour les Sahraouis, où il a fait avancer le droit de manière extrêmement importante, puisque je vous rappelle que les accords UE, c'est-à-dire Union européenne-Maroc, ont été successivement annulés donc par la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'appliquer au Sahara occidental, dans la mesure où c'est une entité séparée du Maroc qui n'a pas achevé son processus de décolonisation. Donc, il y a des enjeux juridiques et politiques très très importants qui vont être déclinés au cours de cette conférence. Venez tous, Ça va être vraiment très intéressant. Et cette conférence est proposée par l'ASPS, l'AFPS, la Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France et le MAN. Voilà.
Et donc, on rappelle peut-être l'horaire, je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est 19h30 à la Faculté des Lettres. Et c'est vrai que la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans un monde qui est là aussi de plus en plus violent, où certains prônent la force, qu'on règle les problèmes uniquement par la force, regardons du côté de ce que fait Trump, Poutine. Non, il faut revenir à des fondamentaux par des règles, par le droit. Et nous, à Parole de Paix, on pense que les boussoles, c'est le droit et qu'il faut faire en sorte que le droit aille vers plus d'humanité et respecter les gens, respecter. Donc la question des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes est une question importante. Il faut aller à cette conférence présentée par Manuel Devers. C'est donc mardi 25 mars à 19h30 à la Faculté des Lettres, amphi A42.
Tout à fait.
Voilà. Le lendemain, il y a un film débat au Caméo,
crois. Oui, au Caméo Commanderie à 20h15. Alors, le titre du film, ça s'appelle « Un pays de résistance ». Je ne vous donne pas le titre en italien.
Ah bon, mais... je croyais que t'allais nous le donner.
Pas du tout. Donc, c'est sur l'accueil de migrants à Riace. Donc, c'est le pays de Calabre.
Ouais, un village
où le maire a décidé d'accueillir des migrants. Il a d'ailleurs été poursuivi en justice.
Oui, il a été condamné à 13 ans de prison. En appel, la peine a été ramenée à 1 an et demi. Elle est suspendue. Et il est devenu député européen. Il s'appelle Domenico Lucano. Ah. Voilà.
Et donc, c'est un débat en présence d'une des réalisatrices du film. Ce sera animé par le réseau Éducation sans frontières et Attaque 54.
Voilà, donc ça, c'est le 26 mars. Et c'est quel horaire?
20h15, Caméo Commanderie.
J'avais été distrait. Le suivant, le 27 mars, Brigitte, dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, nous avons droit aussi à une conférence.
À une conférence qui promet d'être passionnante. Tout à fait. Là, c'est Diwan, dans le cadre du festival Livre d'ailleurs. Il y a une conférence inaugurale qui promet d'être vraiment passionnante. Il n'y a rien de moins que Ilan Pappé, historien israélien, professeur à l'université d'Exeter en Royaume-Uni, Elias Sambar, historien palestinien, essayiste, poète et ancien ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, et Jean-Paul Chagnolot pour modérer il n'y aura pas besoin de la modérer, mais en tout cas pour... pour présenter les intervenants, etc. Donc Jean-Paul Chagnolot, qui est professeur émérite des universités, qui a été doyen de la faculté de droit de Nancy, et ensuite il est parti dans la région parisienne, mais c'est un prof de droit, et il est surtout le président de l'IREMO.
Tu nous as parlé plusieurs fois de l'IREMO.
Oui, l'IREMO, c'est vraiment très très bien.
Faire le site. Qu'est-ce que ça veut dire, IREMO?
Alors, l'IREMO, c'est l'Institut pour le Moyen-Orient.
Mais, c'est Moyen-Orient.
Voilà, d'accord. C'est ça. Alors, c'est le 27 mars à 20h dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. Donc, un place Stanislas. Je vous invite tous à venir. Et si vous voulez avoir de la place, je pense qu'il faudra venir très tôt pour pouvoir rentrer, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde pour parler de Israël-Palestine avec cet échange de deux grands historiens de cette question. Donc un Israélien et un Palestinien. Voilà. Israélien qui a écrit un livre sur les nettoyages ethniques en 1947-48, et il parle de la Nakba. Il a eu accès à des archives, et donc c'est vraiment un historien israélien particulièrement intéressant.
Et si on veut à nouveau conseiller le site de l'IREMO, l'IREMO c'est IREMO, Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, et c'est vrai que c'est Brigitte qui nous l'a souvent conseillé, et elle a raison, c'est un site où on trouve beaucoup d'informations. Et
il y a des vidéos notamment qui sont passionnantes de conférences.
Donc là c'est pour la conférence d'Elia Sambar et d'Ilan Papé avec Jean-Paul Chagnolo, c'est donc le 27 mars dans les grands salons de l'Hôtel de Ville, et sous les conseils de Brigitte, faut venir tôt si on veut avoir de la place, mais on vient, c'est vers 19h ou c'est 20h, qu'est-ce que tu as dit ?
C'est à 20h.
C'est à 20h, d'accord, donc venez un bon moment avant. On continue dans les jours après jours, il y a des jours, toutes les choses à Nancy. Le 28 mars, il y aura une conférence débat sur la question de la sécurité sociale alimentaire. Vous entendez bien ? La sécurité sociale alimentaire, c'est une idée assez révolutionnaire, je ne sais pas si c'est assez récent ou pas, en tout cas des personnes, il y a deux ans, la Ligue des droits de l'homme avait fait une petite conférence avec Bénédicte Bonzi, qui a reçu
le prix des droits de l'homme dans
la ville de
Nancy.
Le livre sur la place.
Oui. Et donc Bénédicte Bonzi sera là. C'est une chercheuse qui travaille. Ouais. Et chercheuse en même temps, concrète.
Qui a été sur le terrain.
Ouais, concrète. Ouais, elle fait.
C'est une anthropologue.
Et il y a aussi un chercheur qui s'appelle Bernard Friot, qui peut être connu par certains. Donc lui, c'est plutôt un.
C'est un prof d'économie, au
oui,
départ.
Oui.
C'est lui qui est à l'origine de cette idée de sécurité sociale alimentaire.
Donc, en deux mots, c'est révolutionner la question de l'aliment pour pas continuer à avoir des sociétés où certains mangent du caviar, des crustacés, et d'autres font les restos du cœur et autres maraudes qui sont de plus en plus nombreuses, mais de dire pourquoi il y a une sécurité sociale pour la santé, pourquoi ne pas mettre en place, essayer, parce qu'il y a des essais qui se font, de sécurité sociale alimentaire. Il y aurait plus, pour la meilleure façon d'éradiquer la pauvreté.
Et c'est aussi pour faire quelque chose de tout ce gâchis, de toute cette alimentation qui annuellement, et c'est plusieurs tonnes, je crois que c'est entre 10 et 11 tonnes d'aliments qui sont jetés. Enfin, c'est absolument hallucinant.
Et
à l'autre bout de la chaîne, il y a des paysans qui ont les plus grandes difficultés également à se nourrir et à vivre dignement. Et donc, il y a vraiment une manière de procéder à une meilleure répartition et faire en sorte que tout le monde puisse manger dignement. Parce que c'est un des principes les plus élémentaires, avoir droit à un accès à une alimentation saine.
Tout à fait. Et donc, dans cette conférence qui aura lieu le 28 mars, sur Vendeuvre, vraisemblablement, au château du Charmois, il y aura à la même table ronde, à la même table, il y aura Bernard Friot, Bénédicte Bonzi et également la Confédération Paysanne, ainsi que d'autres invités. Vraiment, on vous recommande de réfléchir à cette question et de venir prendre des éléments. Il y a déjà aussi des vidéos qui existent de plus en plus.
Oui,
Blast ou d'autres ont fait des émissions avec Bénédicte Bonzi. B-O-N-Z-I.
Et puis Bernard Friot aussi.
Et si vous voulez vous préparer, vous pouvez lire le livre qui a reçu donc, le prix des droits humains.
Oui,
de Bénédicte,
qui est très intéressant.
Qui s'appelle...
Vous avez encore le titre ?
La France qui a faim.
Voilà, bon. Et on continue, on en était au 28 mars, le 29 mars, c'est la veille du 1er avril. Alors Catherine,
donc c'est la fin de la trêve hivernale, ce qui sous-entend de nombreuses expulsions de logements et de nombreuses personnes à la rue. Donc à l'appel de droit au logement, de nombreuses associations se sont réunies et il y aura un rassemblement place Charles III à 14h pour dire qu'il ne doit pas y avoir d'expulsion sans solution de relogement.
tout à fait.
Ouais, c'est vraiment affreux de penser que la France est un des pays les plus riches. Bon, on parle de la France parce que nous, on est là. Mais on fait partie des pays les plus riches du monde. On parle de gens qui ont faim. On parle de gens qui n'ont pas de logement, qui sont expulsés. Il faut vraiment retrouver de l'humanité et vraiment soutenir ces causes. Aller adhérer, militer dans des associations qui s'occupent du logement, la Ligue des droits de l'homme et plein d'associations. Il ne faut pas rester passif, il ne faut pas penser que tout est une fatalité, qu'on ne peut rien faire. Si, on peut faire quelque chose. Et en tout cas, témoigner notre humanité pour
nos prochains. Tout à fait. C'est les audiences vraiment les plus tristes auxquelles on peut assister à la cité judiciaire. Pratiquement tous les matins, il y a des audiences qu'on appelle le contentieux de la protection. Et c'est assez mal nommé d'ailleurs pour ces audiences, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui sont assignées donc, dans le cadre d'expulsion, parce qu'elles n'ont pas payé leur loyer, elles n'ont pas été en mesure de payer leur loyer, elles ont eu un accident de parcours. Je pense d'ailleurs aux étrangers, on le voit souvent dans le cadre des renouvellements de titres de séjour. Si une personne n'arrive pas à obtenir de la préfecture un nouveau titre de séjour, c'est la catastrophe, puisque toutes les aides s'arrêtent.
S'arrête en général.
Le travail s'arrête et les personnes ne peuvent plus payer leur loyer et donc sont sous le coup de mesures d'expulsion. Vraiment, c'est un enjeu de société extrêmement prégnant.
Et puis la loi Kasparian a fait empirer les choses. Il faudrait
pour les logements
en criminalisant les gens.
Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les rendez-vous qu'on vous a proposés, reprenez le podcast de RCN sur rcn-radio.org. Nous, on est dans la partie magazine de société et vous cherchez Parole de paix. Et réécoutez et parlez-en autour de vous. Catherine.
J'ai oublié le 29 mars. Après ce rassemblement pour le droit au logement, il y a le cercle de silence Place Stanislas, comme tous les mois à 15h.
Tous les mois à 15h, Place Stanislas, il y a un cercle du silence.
Pour demander la régularisation des sans-papiers.
Avec des jeunes, avec beaucoup de monde.
Et on vous parlera dans les prochaines émissions du printemps de la Palestine, qui aura lieu...
Fin avril, le 26 avril, je crois que ça commence.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'on en reste là pour les brèves? On en a donné beaucoup dans cette émission. Avant de passer au dossier sur le Sahara occidental, sur le peuple sahraoui, Brigitte, tu nous proposes...
Une petite page musicale, justement avec des Sahraouis. Le titre s'appelle « Ténéré Tissamat » de Rami Abdella.
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ?
Parole de paix sur RCN.
Dans notre émission Parole de paix de cette semaine, nous parlons avec Brigitte du peuple sahraoui, du conflit peu connu qui se passe alors dans un espace qui est contesté, que le Maroc s'approprie, on va dire ça comme ça tout de suite.
Exactement.
D'emblée. Donc c'est un... Donc vous voyez sur une carte d'Afrique du Nord, on voit le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et puis sous le Maroc, avant la Mauritanie, il y a un petit pays, un pays qui s'appelle le Sahara occidental, qui était une ancienne colonie espagnole.
Tout à fait.
Et quand les Espagnols sont partis, ont rendu l'indépendance, le Maroc a dit bah, c'est à nous. C'est un petit peu ça qui se passe. Et depuis, tu disais Brigitte, depuis 50 ans, il y a une guerre larvée entre le peuple sahraoui et le royaume du Maroc. L'Algérie, qui est voisin, héberge les réfugiés sahraouis, et je crois aussi, tu vas nous raconter tout ça en détail, je crois qu'il y a aussi un gouvernement sahraoui en exil et toi, il y a quelques semaines, tu étais parti pour ton cinquième voyage.
Oui.
J'ai lu ça dans le journal.
Oui, bravo.
mais c'est vrai qu'on je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs et les auditrices, mais eh ben, on n'est pas assez informé sur ce conflit-là. Si j'ai entendu aussi dans les mois derniers que Macron. Emmanuel Macron, voilà, avait fait une intervention, alors lui passe au-dessus du droit international, ça l'intéresse pas, parce que lui a dit, eh ben, le Sahara occidental, ça appartient au Maroc, et puis c'est tout. Bon, c'est toujours des arguments politiques ou des visées politiques pour se mettre bien avec un gouvernement ou avec un autre, mais il y a une vraie question de fond, un vrai sujet qui est que le Sahara occidental est occupé, on peut le dire.
Oui, c'est un territoire non autonome. C'est un qualificatif juridique très, très précis qui implique que c'est un territoire à décoloniser. J'invite les auditrices et les auditeurs à aller sur le site de l'ONU et vous verrez que depuis 1963... Le Sahara occidental est sur cette liste des territoires non autonomes. Donc, cela implique que la décolonisation n'a pas été menée à son terme par les Espagnols. Il se trouve qu'en octobre 1975, la Cour internationale de justice a rendu un avis en disant que le Maroc n'avait aucun droit de souveraineté sur le Sahara occidental. Ça a mis Hassan II dans une fureur tel qu'il a en fait créé un contre-feu en organisant la marche verte qui est présentée soi-disant comme une marche pacifique spontanée de la population marocaine. Rien n'est plus inexact. Il y a plusieurs, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de Marocains qui ont convergé vers la frontière et qui sont rentrés dans le Sahara occidental, qui s'appelait à l'époque Sahara espagnol, encadrés par l'armée marocaine. Et donc ça, c'était fin octobre, début novembre 1975. L'ONU a immédiatement demandé au Maroc de se retirer. Le Maroc a fait semblant de se retirer et ne s'est jamais retiré depuis. Si ça a été possible, c'est parce que Franco était à l'agonie. Son agonie a duré plusieurs semaines. Et les Espagnols, eh bien, ne sont pas intervenus. Normalement, l'armée espagnole aurait dû intervenir pour repousser les Marocains. Et cet ordre n'a jamais été donné. Ce qui fait que le Front Polisario a réagi. Le Front Polisario, qui a été créé en 1973... a réagi face à cette occupation brutale et illégale. Et c'est le début de la guerre entre le Front Polisario et le Maroc. La population sahraoui étant sous des bombes au napalm, au phosphore, etc., a commencé à partir en urgence à l'intérieur des terres. Et c'est à ce moment-là que l'Algérie qui venait de gagner son indépendance dans les conditions que vous connaissez, c'est-à-dire quand je dis gagner, c'est au prix d'une terrible guerre, et qui était sensible à cette question du droit à l'autodétermination, a dit à cette population, bien, mettez-vous là, et tout le monde pensait que ça allait durer quelques semaines. Or, 50 ans plus tard, il y a toujours des camps de réfugiés à côté de Tindouf, puisque les populations sahraouies qui se sont réfugiées en octobre-novembre 1975, eh bien, n'ont pas pu rentrer sur leur terre, le Sahara occidental, qui depuis est toujours occupé par le Maroc. Alors, il y a deux grandes dates à se souvenir. Dans les années 87, le Maroc a construit le plus long mur, ça a été pendant longtemps le plus long mur au monde, 2700 kilomètres, un mur de sable très militarisé avec une présence de très nombreux militaires et d'un dispositif extrêmement oppressif. Et en 91, il y a eu un cessez-le-feu. Le Maroc a pris l'engagement d'organiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui.
À la demande de l'ONU. À la demande de l'ONU.
C'est-à-dire que c'est des négociations qui ont lieu sous l'égide de l'ONU, effectivement. Et le Front Polisario a accepté d'arrêter la guerre. Avec cet engagement du Maroc et une mission de l'ONU, la MINURSO, a été mise en place à partir de 91 pour vérifier l'application du cessez-le-feu et surtout mettre en place le référendum d'autodétermination. Eh bien, ce référendum n'a toujours pas eu lieu. Le Maroc profite du statu quo en exploitant de manière totalement illégale les richesses du Sahara occidental qu'il s'est approprié. Alors, il y a des phosphates, il y a une côte très, très poissonneuse et il y a également de l'agriculture maraîchère qui prospère au plus grand détriment des Sahraouis. Et d'ailleurs, ils ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne, j'en parlais tout à l'heure dans le cadre des brèves, pour faire annuler les accords UE-Maroc comme ne pouvant pas s'appliquer au Sahara occidental, qui est un territoire qui n'est pas décolonisé et sur lequel le Maroc ne peut pas exploiter impunément ses richesses sans tenir compte des Sahraouis.
Comme ça fait un peu penser comme illustration à ce qui se passe en Palestine et dans les territoires occupés par Israël, où ils exploitent, où Israël exploite et vend des produits en Europe sous l'étiquette Israël, alors que c'est été volé dans les territoires occupés. Pour le Sahara occidental, on peut aussi faire du boycott de produits qui est vendu sous l'étiquette Maroc, alors que c'est de l'exploitation des terres sahraouies, notamment une marque de tomates que l'on trouve partout
Azura. Au
champ. Azura, A-Z-U-R-A. Moi, je n'en achète pas. Azura, je n'en achète pas.
Oui, tout à fait. Alors, justement, un des apports, parce qu'il y a eu plusieurs arrêts qui ont été rendus le 4 octobre 2024 par la Cour de justice de l'Union européenne, il y a un arrêt qui concerne la Confédération paysanne, qui a saisi également la Cour de justice de l'Union européenne, parce que les paysans français en ont assez de cette concurrence déloyale, de ces tarifs douaniers préférentiels dont bénéficient les Marocains, et ont demandé et obtenu de la Cour de justice de l'Union européenne que les produits qui viennent du Sahara soient étiquetés Sahara occidental et non plus Maroc. Alors, j'en aurais fini avec l'histoire récente pour vous planter le décor ensuite de ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Depuis novembre 2020, le cessez-le-feu a été rompu. il y a de nouveau donc une guerre entre le Front Polisario et le Maroc, de basse intensité, pas pour les Sahraouis qui vivent dans les zones libérées, puisqu'il y a désormais des drones qui interviennent de manière massive, drones achetés, suivez mon regard, notamment à Israël, compte tenu de la normalisation des rapports entre le Maroc et Israël. Et donc, depuis novembre 2020, il y a de nombreuses personnes, de nombreux Sahraouis qui meurent ou qui sont blessés du fait des drones, ce qui a vidé la partie libérée, qui est la partie à l'est du mur. Et c'est une partie qui est extrêmement dangereuse également en raison de la présence de mines antipersonnelles. Et je vais vous en parler dans un instant. Je vais vous parler des actions de déminage qui sont faites. Alors, nous étions...
Catherine voulait...
Oui, mais du coup, le Maroc s'attaque uniquement aux populations civiles avec ses drones ? Enfin, on vise les populations civiles, ce qui est contraire aux conventions internationales.
Tout à fait, mais déjà, c'est des zones désertiques. Donc, il y a quelques échauffourées, etc. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et alors, malheureusement, en France et en Europe, on n'en parle absolument pas. Mais un voyage tel que celui que nous avons fait est l'occasion d'en parler. Alors, nous étions un groupe de 15.
Ouais. Alors, avant que tu nous... Excuse-moi de pour continuer la situation, tu n'as pas non plus parlé. Alors déjà, on a dit qu'il y avait un gouvernement depuis plus de 40 ans, oui. Tu nous en parleras. Oui. Et l'autre chose, pour montrer que c'est une guerre, les prisons marocaines ont un certain nombre de prisonniers politiques. Je sais qu'on avait eu dans une des émissions, il y a assez longtemps, la femme d'un prisonnier politique très
Claude
célèbre.
Mangin.
Voilà, Claude Mangin, ouais. Qui était avec nous. Et donc, pour faire état que c'est un pays en guerre, il a aussi dans ces prisons, il y a des moments de répression très forts avec des gens qui se font taper dessus, mais aussi des gens qui sont arrêtés de façon assez arbitraire, sans être forcément jugés, et qui croupissent dans les prisons du Maroc.
Alors, donc pour récapituler, les Sahraouis sont fragmentés, la population Sahraoui est fragmentée sur trois territoires différents. Il y a le Sahara occidental, qui est le territoire occupé par le Maroc, que le Maroc appelle les provinces du Sud. Terme repris d'ailleurs par Madame Dati, qui est allée là-bas, on ne sait pas du tout ce qu'elle y faisait, puisqu'elle n'est pas ministre des Affaires étrangères. Et donc, au Sahara occidental occupé, eh bien, les populations sahraouies qui y sont restées vivent sous le joug marocain, se voient imposer la nationalité marocaine, ce qui est totalement contraire au droit international humanitaire, aux conventions de Genève, sont des populations de seconde zone qui ont les plus grandes difficultés à accéder au logement, au travail, etc. Et qui est réprimé, c'est-à-dire que s'ils osent dire dans la rue « Sahara libre », eh bien, la famille commence à faire l'objet de ciblage, d'emprisonnement, de procès controuvés, etc., etc. Et donc, ce sont effectivement les prisonniers politiques dont Stéphane parle, alors, il y a le groupe de Gdemzik, ça, il faudrait revenir dessus, mais bon. En tout cas, les prisons marocaines sont pleines de prisonniers politiques sahraouis, qui sont d'ailleurs sur le territoire marocain, ce qui est là aussi contraire au droit international, c'est-à-dire que, normalement, la puissance occupante doit emprisonner les personnes sur leur territoire, à proximité de leur famille, en fonction du droit de l'occuper. Or, c'est rien de tout ça. Les prisonniers politiques sont à 2000 km de leur famille. Donc, ça, c'est la première partie des Sahraouis, ceux qui vivent au Sahara occidental occupé. Il y a une autre partie, c'est donc les territoires libérés, à l'est du mur, et troisième partie, les camps de réfugiés où il y a environ 180 000 personnes depuis 50 ans. Le 27 février 1976, la République arabe sahraouie démocratique a été proclamée donc, comme un État. Et il y a donc au sein de ces camps de réfugiés un gouvernement en exil avec toutes les structures d'un État qui sont prêtes lorsque les Sahraouis recouvreront leur indépendance à être transposées donc, sur le territoire du Sahara occidental. Alors, nous sommes allés sur place. On était un groupe d'une quinzaine de personnes avec l'association Les Amis de la Race, une association nationale qui existe d'ailleurs depuis 1976. C'est vous dire à quel point cette association est vraiment très très attachée à cette cause qu'elle connaît bien. Nous étions accompagnés de trois journalistes, un de l'UMA, un autre de La Croix et un autre de Politis, qui ont commencé à sortir des papiers sur cette situation. Un chercheur de l'EHESS, enfin différentes personnes. Donc nous y avons passé 8 jours pour, eh bien... rendre compte ensuite, lorsqu'on vient en France, de la situation, de ce que nous avons vu, d'une population qui, depuis 50 ans, attend de retrouver sa terre. Elle vit dans des conditions particulièrement difficiles, puisqu'on a affaire à un désert où il fait la moitié de l'année 57, enfin il peut faire jusqu'à 50 degrés, voire 57 degrés. Donc ce sont vraiment des températures extrêmes. Et en hiver, la nuit, il peut faire très froid. C'est une population qui est installée sur le territoire algérien. Mais l'Algérie prête ce territoire, c'est-à-dire que de manière fictive, les Sahraouis, le Front Polisario et la République arabe sahraouie exercent une indépendance, son indépendance sur ce petit territoire, dans le cadre des camps. L'Algérie fournit à cette population une électricité gratuite et une aide sur le plan médical, éducatif. Enfin voilà, c'est une aide qui est très fructueuse. Alors comment les gens vivent sur place ? Ils vivent grâce à l'aide de l'ONU, au Programme Alimentaire Mondial, le PAM. Nous avons rencontré le Croissant Rouge sahraoui, qui est chargé de l'organisation, de la distribution des denrées alimentaires et du fameux panier donc du PAM. Il nous a été dit à quel point c'était totalement insuffisant. Il y a environ 180 000 Sahraouis actuellement dans les 6 camps de réfugiés. Or, le PAM a diminué son aide. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde les dernières résolutions de l'ONU, puisque tous les ans, il y a des résolutions de l'ONU pour donner un nouveau mandat à la MINURSO pour un an. Et c'est le moment de faire le point sur la situation au Sahara occidental. Et constater que malheureusement, ce conflit n'est toujours pas résolu. Et à l'occasion des deux dernières résolutions, donc en novembre 2023 et novembre 2024, l'ONU pointe la nécessité que des contributeurs, des donateurs aident les Sahraouis pour la nourriture, mais vraiment de base, la nourriture vivrière. Et on constate également un taux d'anémie extrêmement important parce que c'est une nourriture qui est très peu équilibrée. Le panier qui est fourni par le PAM, c'est une aide qui est importante, bien sûr, mais elle n'est pas suffisante. Elle est à base de riz, elle est à base de céréales, etc. Mais elle n'est pas du tout équilibrée, raison pour laquelle les Sahraouis sont obligés, grâce à des ONG espagnoles, italiennes, qui veulent bien les aider, à trouver des solutions pour compléter leur alimentation. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu la surprise de constater qu'il y a des activités piscicoles désormais dans les camps. C'est quelque chose de vraiment très récent. Et on a visité une ferme d'aquaponie, vraiment très très intéressante, où il y a un élevage de poissons, de la culture maraîchère, et il y a un cercle vertueux qui est créé, puisque les déchets des poissons vont servir à fertiliser le sol, qui, grâce aux cultures, etc., vont purifier l'eau et revenir dans les bassins des poissons, etc. Et ça a permis donc à cette ferme d'assurer un approvisionnement en salades, notamment en divers plantes et en divers légumes, un camp, le camp d'Aoussert. Alors, pour les poissons, c'est plus compliqué d'assurer une nourriture qui serait à flux tendu. Il y a quelques familles qui peuvent bénéficier de cet élevage de poissons. C'est les familles les plus démunies. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est certainement à reproduire afin d'assurer une nourriture plus équilibrée. Tu voulais poser une question.
Oui, je voulais poser une question. Là, tu parles des camps de réfugiés qui sont sur le territoire algérien.
Tout à fait.
Mais dans la zone qui a été reconquise par les Sahraouis...
Oui, il n'y a plus personne à cause des drones.
Ah, il n'y a vraiment plus personne.
Il n'y a presque plus personne.
Je me demandais comment ils pouvaient se nourrir et si c'était bénéficier de la même aide.
Alors, il y a encore quelques personnes, mais c'est très, très difficile d'obtenir les chiffres. Ils avaient mis en place des jardins dans les zones libérées, notamment grâce à des associations et des ONG italiennes, je pense au CHISP, qui intervient beaucoup dans les zones libérées, mais actuellement c'est trop dangereux. Donc là, la situation est un petit peu opaque et le Front Polisario a demandé aux Sahraouis d'évacuer cette zone qui est vraiment devenue très très dangereuse. Nous avons également, alors quand nous sommes sur place, c'est l'occasion pour nous de rencontrer des officiels. Donc on a rencontré le Premier ministre, on a rencontré la ministre des Affaires sociales, mais on rencontre également des associations de femmes, notamment, qui sont très présentes et qui sont très dynamiques dans l'organisation de la vie quotidienne. Parce que les hommes, enfin beaucoup d'hommes, sont appelés par le Front Polisario à aller soit combattre, soit se préparer au combat, etc. Et donc, ce sont les femmes qui, véritablement, organisent la vie des camps, et ce, de manière démocratique, puisqu'il y a des élections. Donc, on a pu constater, une fois de plus, à quel point le rôle des femmes était vraiment extrêmement important. Alors, nous avons également visité une association qui s'appelle SMACO, qui s'occupe du déminage avec des associations, des ONG. Alors, il y a eu une première ONG danoise, il y en a une autre américaine, qui aide les Sahraouis à aller dans les zones libérées pour procéder à du déminage. Le problème est que le Maroc n'a jamais voulu donner la carte des mines antipersonnelles. Donc, c'est vraiment un travail de fourmi qui est fait. Nous avons eu le témoignage très émouvant d'une jeune femme qui a accepté d'aller sur place pour procéder au déminage, et elle nous a expliqué comment elle faisait, etc. Ça n'a pas été facile à faire accepter par sa famille, puisque elle était enceinte à l'époque. Mais pour elle, c'était un devoir national d'aller sur place, et elle était particulièrement sensibilisée dans la mesure où son père a été blessé en raison d'une mine antipersonnelle. Alors, il y a de grands défis. Il y a de grands défis en termes d'accès donc à l'alimentation, mais également à l'eau. pour permettre à ces populations eh bien, de survivre dans des conditions dignes. L'eau arrive grâce à des forages et l'eau est donc distribuée. Selon, elle est vraiment rationnée, hein, ça on peut le, on a pu le constater. Et d'ailleurs, parfois, il y a même des tensions, notamment en été, quand il n'y a plus beaucoup d'eau, c'est apparemment extrêmement compliqué, puisque, encore une fois, la population a augmenté du fait du déplacement des Sahraouis, des zones libérées, vers les camps de réfugiés. Donc, si vous avez des questions à me poser, oui, c'est le moment.
Et en fait, donc, l'association de solidarité avec le peuple sahraoui de Lorraine, il y a deux volets de leurs activités. Une partie qui est un soutien aux populations. Je me souviens avoir aussi participé à des émissions sur Parole de paix où il y avait l'été, des accueils d'enfants. Là, les voyages exploratoires, comme tu viens de nous en parler. Est-ce qu'il y a aussi des... aller aider matériellement,
oui. Tu disais... Alors, on va relancer, justement. On relance la partie solidarité à travers le financement d'un projet de rénovation de bureaux dans une daïra, dans une wilaya. C'est-à-dire que, en fait, les 6 camps de réfugiés sont structurés de manière administrative et de manière politique. Un camp, c'est une wilaya. Ça correspond, si vous voulez, à une préfecture. Et ensuite, à l'intérieur des camps, il y a des mairies, ce qu'on appelle les daïras. Et à l'intérieur des daïras, il y a des baïros, c'est-à-dire des quartiers. Et à chaque niveau, à chaque échelon, il y a des femmes. La plupart du temps, c'est des femmes qui ont été élues. Et donc, on va contribuer donc à la rénovation de bureaux dans une daïra. Et on va continuer. Ce voyage était une manière aussi de reprendre nos projets, parce qu'on a fait plusieurs projets par le passé, notamment une salle polyvalente dans une école, et puis divers micro-projets que nous soutenions. Puisqu'il est très important pour soutenir le peuple sahraoui d'avoir un rôle de... un rôle de plaidoyer, de parler de cette situation afin de ne pas oublier les Sahraouis et puis, naturellement, de les aider dans le cadre d'une solidarité concrète. Parce que ce qui est très paradoxal dans cette situation, c'est que cette situation perdure depuis 50 ans. Donc, ils ont été obligés de commencer à s'installer. Au départ, c'était de simples tentes, la khaïma, traditionnelle des Sahraouis. Et puis, le temps faisant qu'ils ont été obligés de construire des petites maisons en terre. Et désormais, ce sont des maisons en aglo, avec du béton, etc. Donc, c'est une tension à l'intérieur de cette population qui ne pense qu'à une chose, c'est à repartir sur sa terre et vivre de manière indépendante et libre. C'est ça leur seul souhait et souci. Et en attendant, eh bien, il faut vivre parce que c'est la troisième génération qui naît et vivre de manière la plus digne possible, c'est élever les enfants, les éduquer. C'est le taux d'alphabétisation le plus, en tout cas, un des plus importants en Afrique. Se soigner et faire en sorte que les plus vulnérables aient de quoi vivre dans des conditions normales. Et nous avons également visité deux écoles, deux structures pour handicapés, parce que les Sahraouis n'oublient pas également d'aider les plus vulnérables d'entre eux, c'est-à-dire les personnes handicapées.
Catherine.
J'ai encore une toute petite question. Je suppose que vous ne pouvez pas aller dans la zone occupée.
Alors,
qui va observer ? Il y a quand même des organisations qui
Il y a un très grand nombre de personnes qui sont expulsées. Les avocats, les ONG, les députés européens sont expulsés. C'est arrivé encore il y a peu de temps. Les journalistes sont expulsés. Les juristes qui s'intéressent à la question des droits de l'homme ne peuvent pas aller au Sahara occidental. Le Maroc leur interdit. Voilà.
Il y a un certain nombre aussi de militants qui ne passent pas par le Maroc pour pouvoir aller soutenir les Sahraouis, mais qui passent par l'Algérie justement pour éviter...
Non, parce qu'ils ne peuvent pas franchir le mur.
Il y a le Maroc. Ah. Il y a le mur, pardon.
Oui, non, pas pour rentrer sur le territoire, mais pour aller soutenir les Sahraouis, le peuple Sahraoui.
En Algérie, oui, dans les camps de réfugiés, parce qu'on passe par l'Algérie, mais... Catherine parlait du Sahara occidental.
Oui, oui,
occupé
la partie
par le occupée. Maroc.
Avant la partie verte, oui, j'ai vu sur ta
et
carte.
Il y a une chose dont je vous parlerai peut-être à l'occasion de la prochaine émission, c'est de la marche de Claude Mangin du 31 mars jusqu'à fin juin d'Ivry jusqu'à Kenitra pour revisibiliser la question sahraoui, pour parler des prisonniers politiques, pour demander leur libération, etc., etc. Je vous en reparlerai.
Pour terminer notre émission, parce que nous avons un petit peu dépassé, il faut dire aux auditeurs, aux auditrices, s'ils veulent des informations, s'ils veulent venir apporter un coup de main, venir rejoindre l'association de solidarité avec le peuple sahraoui, Lorraine, l'adresse mail, c'est, prenez un crayon, l'adresse mail, c'est contact.aspslorraine, tout attaché, contact.aspslorraine@orange.fr. Et votre site, c'est aspslorraine, tout attaché, .wordpress.com.
Et il y aura certainement cette année à nouveau un accueil des enfants et on vous en reparlera. On invitera Jacqueline Fontaine pour nous en parler, et peut-être Marielle d'ailleurs, pour nous parler de cet accueil des enfants.
Et dernier lieu pour s'informer aussi, tu as parlé tout à l'heure...
C'est un blog, hein, c'est pas un site. Hein,
oui, bon. Et là tu as parlé tout à l'heure de l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique, ça s'appelle la République arabe sahraoui démocratique, rapidement c'est RASD, RASD, oui. Et l'Association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique a un site qui s'appelle association-des-amis-de-la-rasd.org, et là on a plus les informations historiques et politiques du Sahara occidental. Eh ben, est-ce que on se dit au revoir
et à bientôt.
Donc, merci à toute l'équipe de RCN, et c'était Parole de paix.